Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Marie Montpetit, bonjour.
Allô, Guillaume Lavoie.
Bon, Marie, ça négocie fort à Québec, à savoir, bon, mais maintenant, l'Assemblée nationale va fonctionner comment? Qui va se partager le pactole? Parce que le statut au Parlement, ça se traduit en temps de parole, en attaché, en budget de fonctionnement. Et là, c'est pas clair s'il y a pas... Probablement que le Parti québécois doit trouver la journée difficile, là.
Ben écoute, là, c'est comme le calendrier de l'Avent qui commence, OK, pour les freaks de politique comme nous, là. Là, on est à J-12 de la rentrée parlementaire. On va pouvoir se mettre un petit X tous les jours. Donc, la période de questions va recommencer. Donc, il commence à manquer de temps. Et là, c'est les négociations, là. Tu te rappelles, il y a des négociations depuis quelques semaines déjà qui sont recommencées parce que pour être reconnu comme un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, il faut avoir 12 députés ou avoir récolté 20% des voix. Et ben écoute, donc ça coince comme tu le sais. Et le PQ est vraiment pas content, c'est ce qu'ils nous ont dit ce matin. On a vu entre autres Joël Arsenault, Pascal Bérubé qui est sorti aussi sur les médias sociaux, sont pas contents de ce qu'il leur est offert. Puis là, ben ils ont décidé de porter cette négociation là sur la place publique, alors qu'il avait été quand même entendu de façon tacite que les négociations se ferait entre eux à porte close et qu'on prendrait le temps de discuter.
Mais là.
Et là, je pense pas que c'est une stratégie. Tu sais, j'ai commencé en disant ça avant de voir ce qu'il leur est proposé puis ce qu'ils dénoncent, mais je pense pas que c'est une stratégie qui est très payante. Tu me diras probablement qu'ils ont rien à perdre parce qu'effectivement, c'est dans 12 jours, ils sont juste 3, puis là, ben rendu là, ils vont peut-être essayer de mousser. Puis je pense que c'est ça l'idée, là, de mousser une certaine. D'opinion publique qui se soulèverait pour soutenir son parti au niveau du pourcentage de vote, parce qu'effectivement, au niveau du pourcentage de vote, ils ont fait aussi bien, sinon mieux, que le Parti libéral, aussi bien que Québec solidaire. Donc, eux, ils visent vraiment en disant, ben écoutez, nous, on a eu le même pourcentage de vote, on devrait à tout moins avoir quelque chose de plus représentatif
Marie,
que ce qui nous est offert.
La finalité de cet argument-là, puis à un moment donné, il faut se poser la question. L'Assemblée nationale, ce n'est pas la représentation des pourcentages de vote. C'est la représentation des parlementaires. Et là, on compte littéralement les nombres de sièges. Et à ce jeu-là, le Parti québécois compte pas mal perdant. Ma grande question, habituellement, ce genre de négo-là, il y a deux approches. D'un côté, on peut se dire, voici combien d'argent il y a. Puis là, ben, c'est de séparer la tarte plus ou moins également. Ou sinon, on se dit, ben non, je vais grossir la tarte pour que, par exemple, le Parti québécois ait un attaché de plus. Ou un personnel de plus, ou un 100 000 de plus pour le budget de recherche. Est-ce qu'il y a une piste d'atterrissage à tout ça? J'imagine que le gouvernement lui s'en lave assez les mains. Peut-être qu'il aurait avantage à diviser les oppositions, donc à renforcer le Parti québécois. Comment tu les imagines tout ça là-dedans?
Ben, écoutez, il y a deux grands enjeux hein, dans la négociation présentement sur la table. Il y a l'enjeu, tu le nommes bien, il y a l'enjeu monétaire qui est de savoir combien un groupe parlementaire va avoir d'argent pour fonctionner, c'est-à-dire combien ils vont avoir d'argent pour, entre autres, engager du personnel, avoir une équipe de recherche. Tu sais, évidemment, quand on se lève tous les matins à la période de questions, on fait pas ça seul. On a un recherchiste qui nous accompagne, qui fait la revue de presse, qui nous aide dans les stratégies. Il y a toute une équipe. Si on a un leader, ça veut dire qu'on a un bureau du leader. On va orienter toutes les stratégies aussi de la journée, de la semaine.
Puis Marie,
c'est sûr que
ça
a un impact de part tout ça.
Mentionnons-le parce que je veux qu'on tue même l'idée que certaines personnes pourraient se faire de, bon, ils veulent plus d'argent pour s'enrichir ou pour avoir des privilèges. Être parlementaire, pour être un bon parlementaire, ça prend de l'aide. Ça prend des gens. Tu peux pas poser une question où on présume. Tu veux poser une question sur laquelle tu as fait tes recherches, tu as travaillé. Bon, ben une opposition affaiblie ou plutôt mise en famine, ben ça fait une opposition moins forte et donc un parlement moins fort.
Oui et non. Là, je te dirais, il y a deux façons de voir ça aussi, parce que, tu sais, moi, je suis passée par là comme députée indépendant. Quand tu es députée indépendant, je veux dire, tu t'organises, là. Je veux dire, c'est ça ta job dans la vie, de poser des questions puis d'être efficace et tout. Là, tu me dis, c'est ça, c'est que la ligne est vraiment mince dans leur cas, parce que, comme tu dis, l'approche. Bon, si on y va sur une approche historique, ben oui, le Parti québécois, tu sais, c'est des décennies, ça a été un grand parti, mais là, ils sont juste trois. Je veux dire, c'est ça la réalité. Donc, faut trouver une piste d'atterrissage. Là, je regardais justement à la dernière législature, ils avaient un montant de 1,3 million pour fonctionner. On s'entend que c'est pas dans les poches des députés, c'est vraiment pour se monter une équipe, avoir du personnel. Là, ce qui leur est proposé, c'est moins d'un demi-million, c'est moins de 500 000 $. Donc là, je veux dire, ça reste quand même une masse salariale, on s'entend, très, très raisonnable pour trois députés, à mon avis, là. Mais le PQ voudrait 800 000. Là, ils ont mis ça sur la place publique en disant, nous, à 800 000, on est prêt à négocier. Donc, c'est pour ça que je dis, ils négocient sur la place publique. Mais l'enjeu aussi très important au-delà de l'aspect monétaire, c'est ta visibilité. Tu sais, je veux dire, pour exister, là, un parti politique, faut qu'il existe. Faut qu'il soit vu, faut qu'il soit visible.
Mais ça, c'est du temps parlementaire.
Ça passe entre autres par la période de questions. Et je pense que c'est beaucoup là-dessus ce matin que le Parti québécois est sorti en disant justement que ce qui leur serait accordé en ce moment, c'est seulement 5% des questions en chambre. Je te donne une petite idée pour voir. Déjà, ce que ça veut dire que le PQ a pas une question par période de questions. C'est pas à toutes les périodes de questions que le chef parlementaire pourrait se lever. Moi, j'ai fait un petit calcul mathématique ce matin. Normalement, d'ici la fin du mois de juin, là, si on prend toute la session va recommencer pour à peine 2 semaines, mais mettons, si on prend toute l'année jusqu'à la fin du mois de juin, il y aurait 55 périodes de questions. Ce qui veut dire à peu près 500 questions qui vont être posées au gouvernement. C'est à peu près ça. Là, en moyenne, il y a à peu près 9 questions qui sont posées, à moins que ce soit la foire d'empoigne, puis que là, il y a des appels au règlement, puis que là, le président intervient, puis là, on perd du temps de parole,
puis Marie,
on parle à 9e.
Faut le dire, hein, c'est 500 questions, ça veut pas dire 500 réponses. C'est la période des questions.
Je parle juste de questions, t'as tout à fait raison. Mais là, ça veut dire que selon le calcul qui est proposé, ça veut dire que le PQ en aurait 25 ouais. Sur l'année complète, c'est vraiment pas beaucoup là. Donc c'est pour ça qu'on est à moins d'une question par période de questions. C'est pas beaucoup, mais une fois qu'on a dit ça, je pense que le fait de sortir sur la place publique, c'est sûr que c'est pas apprécié par les autres partis. Il reste encore 12 jours de négociation. Et je te rappelle aussi que les députés du Parti québécois ont toujours pas prêté serment au roi.
Ouais, ceux de QS non plus.
Et donc, ça techniquement, va être... ils peuvent pas siéger le 29 novembre. Donc là, écoute, sont partout, mais je suis pas sûr qu'ils mettent leurs énergies à la bonne place.
Mais là-dessus, puis j'imagine Québec solidaire qui a probablement décidé de jouer l'horloge parce qu'il se dit, il y a une élection partielle à l'intérieur des 6 prochains mois. C'est probablement nous qui, en tout cas, sont présentement les mieux positionnés pour la gagner. Et ça ferait passer QS de 11 à 12 députés. Et là, ben, il resterait que le Parti québécois qui se qualifie pas selon les règles que l'Assemblée s'était donné. En passant, l'Assemblée s'était donné pour accommoder l'arrivée du Parti québécois en 1970 ou 73. Alors, ça va être intéressant de voir aller la chose. Dis-moi, changeons de sujet. Il y a l'enquête du protecteur du citoyen. Et là, ça me faisait rire. C'est le traitement de faveur par des organismes proches du politique. Bon, c'est pas exactement nouveau, c'est pas plus acceptable qu'avant, mais là, la grande question, c'est où? Hein, c'est quel ministère? Quel ministre? Qui est proche de qui? Bon, on se doute peut-être de la réponse, mais comment tu nous présentes ça?
Ben écoute, moi je trouve ça scandaleux ce qu'on apprend ce matin, c'est grave parce que ce dont il est question dans le rapport du protecteur du citoyen, c'est de manquement grave, de manquement. Donc ce qu'il mentionne, c'est que le cabinet d'un ministre, est-ce que c'est le ministre ou la ministre elle-même, est-ce que c'est ses employés? On n'a pas de détails, mais de toute façon, c'est pas gros un cabinet là. Je vais te dire, pour avoir été ministre, pour avoir eu des employés, ça tient sur un grand bureau.
Donne-nous un ordre de grandeur là. Un cabinet, il y a combien de gens? Évidemment, il y a des grands cabinets, ou plutôt des gros cabinets parce qu'il y a des gros ministères, mettons la santé. Puis à l'autre bout, imaginons les relations internationales. Donne-nous un ordre de grandeur. C'est combien de gens là quand on dit le ministre ou la ministre et son entourage, son cabinet? C'est combien de monde ça?
Ben écoute, dans le cabinet, si on exclut le bureau de circonscription, ça va être de 10 à 20 personnes. Tu sais, c'est pas le ministre est au courant de tout, puis si le ministre n'est pas au courant, il y a un enjeu, mais son directeur de cabinet est au courant. Tu sais,
bon, parce que un directeur de cabinet. Tout le monde, là.
Ben oui, un directeur adjoint, un attaché de presse, puis 4, 5, 6, 8 attachés politiques, dépendamment des dossiers. Non, tout le monde connaît tout le monde se voit tous les jours à partir de la revue de presse à 6 heures le matin jusqu'à la fin de la journée quand le ministre revient de la période de questions, puis là, il débriefe, puis tu sais, on se prépare pour le lendemain. Tout le monde connaît tout le monde et tout ce qui se fait dans un bureau est su, là. Ça, moi, on ne peut pas avaler le contrat.
Marie, ce que tu nous dis, c'est la fameuse excuse de... J'étais pas au courant, je le savais pas. C'est des gens dans mon bureau qui ont fait ça sans m'en parler.
Très peu, c'est peu crédible. On sait pas à ce stade-ci. Non, ça, si quand on saura, parce que là, l'enjeu, c'est de savoir qui c'est. Donc, juste pour revenir au début de l'histoire, là, ce que le rapport dit, dans le fond, c'est qu'il y a 60 millions, un budget de 60 millions, qui normalement est un programme normé, dont le ministère décide comment ils veulent l'attribuer. Il y aurait eu des interventions du cabinet politique, ce qui ne se fait pas. Le ministre a un budget, chaque ministre a un budget discrétionnaire dont il peut disposer comme il veut, mais tu as ce qu'on appelle les programmes normés, les subventions, et ça, c'est administratif, c'est normé. Et là, il y a des recommandations négatives qui auraient été faites pour certains projets par le ministère en question, et le cabinet aurait quand même donné son aval, serait passé par-dessus ces recommandations-là, aurait octroyé des fonds à des organismes qui avaient même pas fait de demande formelle et qui avaient pas de projet. Oui, c'est grave, et c'est des gens qui étaient dans l'entourage de ces autorités-là, qui avaient des liens avec. Et là, en ce moment, l'enjeu, ça c'est un premier enjeu, mais le deuxième enjeu, c'est que le protecteur du citoyen ne révèle pas ni qui est le ministre, ni de quel ministère on parle. Et là, moi, je pense qu'au niveau, de la transparence, pour pas alimenter non plus le cynisme de la population, ça ne peut pas rester comme ça. Puis je comprends qu'il y a un enjeu de protection des lanceurs d'alerte, mais on peut pas se retrouver avec présentement un membre du gouvernement. Est-ce que cette personne-là est encore ministre? Est-ce qu'elle n'est pas ministre? Et là, on a vu que le Parti québécois et le Parti libéral du Québec demandent justement au premier ministre de révéler qui est cette personne et de la sortir à tout le moins de son conseil des ministres ou de la renvoyer, en tout cas, ou d'agir. Mais je pense que par transparence pour la population, on doit savoir exactement où ça s'est passé et de quoi il en retourne, parce qu'on a très peu de détails à l'heure actuelle.
Oui, surtout, là, il y a des choses, parce qu'il peut toujours y avoir un ministre qui est en accord ou en désaccord. Le ministère fait des recommandations, mais c'est le ministre qui décide, qui tranche. Et en ça, c'est plutôt le côté normal. Mais octroyer des fonds à des organismes qui n'ont même pas fait de demande, ou littéralement... aller contraire aux recommandations du ministère, mais parce qu'il y a une espèce d'accointance ou la fameuse excuse « je le connais », j'ai envie de dire, bon, Dieu seul sait qui est le ministre ou la ministre ou le ministère en cause, le diable sans doute, la pression va monter, on va finir par le savoir, là.
Ben, je crois que oui, puis tu sais, dans le rapport, on parle de manquement grave, de manquement répété, de traitement de faveur. Donc, tu sais, ça peut pas se faire non plus sans conséquence. On a une responsabilité quand on est ministre. On prête serment. On en a parlé beaucoup du serment. On a un code d'éthique. Ça ne peut pas être fait sans conséquence. Et comme je dis, sinon, ça continue d'alimenter le cynisme auprès de la population. De toute façon, les élus, ils s'en mettent plein les poches. Ils font ce qu'ils veulent. Ils donnent ça à leurs petits amis. Puis il y a pas de conséquence à la fin de la journée. Et puis ça peut pas. Je veux dire, ça dessert tout le monde en politique.
Est-ce qu'il y a des recours, à part le poser des questions en chambre, faire de la pression politique en gardant la chose vivante dans l'actualité, est-ce que quelqu'un a des recours quelque part, un pouvoir d'initiative, est-ce que le VGE, le vérificateur général
du Québec, la commissaire à l'éthique, je crois.
Ou la commissaire à l'éthique a le pouvoir, ce qu'on appelle d'initiative, de dire « j'entends des choses, je fais enquête ».
Ben écoute, je serais pas surprise à l'heure actuelle que les partis de l'opposition sollicitent la commissaire à l'éthique qui a été très active. On l'a vu hein, dans le dernier mandat, justement, il y a eu plusieurs blâmes à l'éthique qui ont été portés sur des ministres. Elle est très rigoureuse sur ces questions-là. Je ne serais pas surprise qu'il y ait des rencontres qui se fassent aujourd'hui ou demain pour... soulever certaines hypothèses, par exemple, ou tu sais, tout se sait hein, généralement sur la colline. Québec, c'est juste une question c'est de bien... temps avant que l'information. Ouais.
Le Québec, c'est un
Radio
petit
colline.
Monde.
On appelle ça Radio Colline.
C'est... Le Québec, c'est un petit monde et la colline parlementaire, c'est un petit village. Là. Je le dis pas de manière péjorative, mais il n'y a pas de secret. Hein. La blague à Québec, c'est si t'es deux dans la pièce, ce n'est plus un secret. Ou, comme disait Marie, mon vieux prof de négo, Marie disait, vous savez ce qu'est-ce qu'un secret? Puis là, moi, j'étudiais à l'Université Laval, donc à Québec. Il dit, c'est quelque chose que l'on dit à une seule personne à la fois. Et ça ressemble
à la
un
fois,
peu
exactement.
À ce qu'on va vivre à Québec.
Mais chose certaine, ça pourrait être une chaise un peu brûlante pour le premier ministre. Je le rappelle, la période de questions, la rentrée parlementaire se fait dans 12 jours. C'est pas très long. Et dépendamment de l'ampleur que ce dossier-là va prendre, ça veut dire que le premier ministre du Québec, François Legault, pourrait se retrouver avec un ministre dans l'eau chaude, avec une situation probablement pas très agréable à gérer en plein début de mandat, avec cette période de questions sur laquelle il pourrait être questionné là-dessus.
Mais Marie, tu sais, 12 jours, c'est un petit morceau d'éternité. Il y a plein d'autres scandales qui peuvent arriver d'ici là. Ou d'autres enjeux qui occuperont l'actualité. On va suivre ça ensemble. Marie Monpetit, merci beaucoup.
À demain.
Au plaisir.